20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. La force créatrice face à l'adversité, la combativité, la résilience et le dépassement de soi, telles sont les valeurs que les musiciens du Quatuor Almyre ont choisi de célébrer dans leur premier album, double album même, sorti chez Scala Music, dédié à Beethoven, à ses trois quatuors de l'opus 59, mis en regard avec son poignant testament d'Heiligenstadt. David Petrick et Johann Bracca, les deux violonistes du quatuor, seront à notre micro tout à l'heure pour en parler. Avant cela, comme chaque soir, un tour d'horizon de l'actualité musicale. Riccardo Muti a dirigé samedi un concert insolite et émouvant dans une prison de la banlieue de Milan. La plupart des instruments de l'orchestre faisaient partie du projet Les Violons de la Mer. Ils ont été fabriqués par des détenus qui travaillaient dans l'atelier de lutherie de la prison, et cela à partir de bois récupérés sur des embarcations ayant transporté des migrants et échoués sur l'île de Lampedusa. Entendre ces personnes qui purgent ici leur peine, mais qui semblent si sereines et si clairement et ouvertement désireuses de trouver un sentiment d'harmonie dans leur vie grâce à la musique, a enrichi mon expérience en tant que musicien et en tant qu'homme, a déclaré le chef italien. Une histoire à lire sur le site et sur l'appli de Radio Classique, racontée par Philippe Gau. Après avoir été créé à Rouen, le Requiem allemand de Brahms, mis en scène par David Bobet et dirigé par Laurence Equilbé, sera présenté jeudi, donc demain, puis samedi et dimanche à la scène musicale. Ensuite, mercredi prochain au Grand Théâtre de Provence à Aix et puis le 23 à Anvers. Une production absolument bouleversante, réunissant les musiciens d'Insula Orchestra, le chœur Accentus, la soprano Eleanor Lyons et le baryton John Brunsey. Le metteur en scène David Bobet souligne ici les résonances de cette œuvre de Brahms avec nos préoccupations contemporaines, plaçant au centre de la scène un avion crashé, symbolisant, nous dit-il, la folie de notre époque qui va dans le mur. Cette œuvre vient nous raconter les différentes trompettes de la mort qui pourraient s'abattre sur notre époque si nous n'y prenons pas garde, ajoute-t-il. Quelques notes du Requiem allemand de Brahms chantées par le chœur Accentus, ici dans une version pour chœur et piano. Requiem allemand avec Accentus et Insula Orchestra dans la version scénique de David Bobet et dirigée par Laurence Equilbé. C'est demain, samedi et dimanche à la scène musicale, puis les 21 à Aix-en-Provence et 23 à Anvers.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est une lettre poignante de Beethoven adressée à ses frères dans laquelle il exprime son désespoir causé par sa surdité qui a servi de point de départ au nouvel enregistrement du Quatuor Almyre, le premier pour le label Scala Music, un double album, magnifique double album réunissant les trois quatuors de l'opus 59, les fameux Razoumovsky de Beethoven, ponctués d'extraits de cette lettre connue sous le nom de Testament d'Heiligenstadt. Les deux violonistes pianistes du Quatuor Elmire sont avec nous ce soir, David Petrick et Johan Braca. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il nous dit, ce testament d'Heiligenstadt, sur la souffrance de Beethoven? C'est vrai que c'est une lettre très forte, c'est une lettre poignante, dans laquelle il utilise des mots très forts.
Absolument, David. Beethoven, c'est un moment de vie, voilà, pour lui, c'est vraiment un combat qu'il va mener contre lui-même et aussi vis-à-vis de la société. Beethoven, c'est évidemment un compositeur avec un immense succès auprès de ses pairs, de son public, mais à ce moment-là, il va vraiment y avoir un moment de doute très profond qui est lié particulièrement à un handicap très lourd à supporter, particulièrement en plus pour un musicien, un compositeur, qui est sa surdité. Et c'est vrai que Beethoven va finalement surmonter tous ces périples et arriver avec ce cheminement à écrire et à créer ensuite les plus belles pages de son répertoire et de sa vie.
Et c'est vrai que c'est un formidable témoignage de résilience et de dépassement de soi, d'où le titre que vous avez choisi pour votre album Beyond the Limits. Cette notion de dépassement, c'est quelque chose qui nous touche tous en tant qu'êtres humains, qui nous ébranle tous. Et l'exemple de Beethoven nous incite tous à déployer aussi cette combativité. C'est un message très fort, Johan.
Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons voulu traduire, interpréter. Et c'est vrai qu'au quotidien, la vie nous apporte des choses à parfois à surmonter, parfois à vivre avec intensité. Et c'est notre quotidien, nous, en quatuor. On est tous les jours à quatre, on s'écoute, on se fait progresser. Et puis Beethoven, qui est un des grands compositeurs du répertoire pour quatuor à cordes, nous donne ce répertoire-là, hein, qui a été bien sûr interprété par des grands, des très grands avant nous. Et Beyond the Limits, c'est aussi à nous de vouloir, non pas du tout réinventer, mais donner notre lecture, notre sentiment à nos âges aujourd'hui de ce texte-là. Donc effectivement, ce dépassement est au cœur de ce double CD.
Et pourquoi l'opus 59 pour illustrer cette combativité, cette force créatrice malgré les souffrances de Beethoven?
Eh bien, c'est vrai que justement, comme tu disais, Johan, il y a ce rapport de vie, donc, et aussi ce moment de vie qui est parallèle avec ce qu'on a pu ressentir dans le quatuor à ce moment-là. C'est vrai que quand on décide aussi de mener un projet d'enregistrement, c'est un moment aussi de miroir, c'est un moment de vie très important à chaque fois dans la vie des artistes, et qui plus est pour le quatuor avec notre premier CD. C'était donc il y a plusieurs années, on se posait la question du répertoire aussi qu'on voulait défendre, qu'est-ce qu'on voulait aussi transmettre comme message. Et c'est vrai que par rapport à ce que l'on a pu vivre, c'était finalement cette musique qui nous paraissait le plus appropriée, en tout cas dans ces moments de vie du quatuor aussi. Et puis à la suite évidemment du concours de Genève, on a pu présenter ce projet des Razoumovski, cette résilience, parce que dans la vie du quatuor, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est cet échange à chaque fois et ce doute permanent qui nous permet finalement de ensuite réunir nos quatre voix.
Thank you.
Le premier mouvement du Quatuor opus 59 numéro 1 de Beethoven par le Quatuor Elmire, un enregistrement sorti tout récemment sous le label Scala Music et que l'on écoute ce soir avec les deux violonistes du Quatuor Elmire, David Petrick et Johann Braca. C'est vrai que dès ce premier mouvement, dès le début de ce cycle opus 59, on sent un élan, on sent une force qui illustre parfaitement cette combativité de Beethoven contre la surdité. Rien que ce mouvement-là, il est emblématique de votre démarche, David.
Oui. Bah, il y a tout de suite un grand oui, en fait, sur le plan de cette villa, justement, avec cette tonalité de fa majeur que en plus Beethoven va chérir tout au long de sa vie, avec la pastorale, son premier quatuor, son dernier quatuor, qui ont été écrits dans la même tonalité. Donc il y a un rapport très philosophique avec cette tonalité, cet élan aussi de cette ouverture du triptyque. Et c'est vrai que tout de suite cette lumière apportée par ce thème, par cette mélodie, ce tableau qui est peint par le quatuor au début de ce mouvement-là, on est tout de suite dans l'action, en fait. C'est cette force d'un coup de narration qui est tellement présente depuis la première note que Beethoven arrive à nous faire sentir et à nous prendre pour commencer cette grande histoire des Razumovsky.
Alors, dans cet enregistrement, on vous entend aussi lire le fameux testament d'Heiligenstadt de Beethoven. Vous l'avez également enregistré. Le texte figure dans le livret. Le fait de vous être plongé dans cette lettre, est-ce que cela a influencé aussi votre jeu, votre façon d'appréhender la musique de Beethoven, le fait d'avoir ces mots à l'esprit, de les avoir dit vous-même, et d'ailleurs si vous les avez enregistrés, ce n'est pas anodin, c'est aussi pour que l'auditeur les entende et qu'ils résonnent dans notre esprit quand vous jouez sa musique, Johann?
Tout à fait, quand on a pensé à ce premier album, on a essayé de se trouver, nous, en tant que quatuor, en tant que quatre individus d'un quatuor, comment on avait envie de construire ce premier projet phonographique. Et puis, c'était l'introspection, être complètement dans un moment de vie de Beethoven. Donc, à la Scala, on a fait notre concert parisien, il y a maintenant un mois, et on a récité ce texte. On aime aussi réciter ce texte, se mettre nous-mêmes dans ce moment, amener le public aussi dans ce moment de vie. Et bien sûr que ça nous aide, et c'est important, c'est une dramaturgie, c'est presque théâtral, pour pouvoir jouer ces quatuors.
Ce merveilleux triptyque des quatuors opus 59, qui compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre du répertoire pour quatuors à cordes, quand est-ce qu'ils sont entrés dans votre vie de quartettiste?
Eh bien, le deuxième, donc, est rentré en premier dans notre vie de quartettiste. C'est vrai que il a été présent dès le début, en fait, de ce travail qu'on a engagé tous les quatre. Dès ce deuxième Razumovsky, donc qui est le seul quatuor écrit en mineur de Beethoven, eh bien, c'est vrai que il y a aussi une notion qui est importante dans ce quatuor, avec ses ruptures incessantes, et d'un coup ces moments où on se retrouve, il y a une temporalité qui est différente, et c'est vrai qu'il nous a tellement marqué aussi par le second mouvement, donc cette nuit étoilée où Beethoven pense et écrit finalement ce mouvement-là en ayant cette extase quelque part devant la nuit. Eh bien, il y a ces formes de temporalité des phrases poussées à l'extrême, qui sont très très longues à tenir aussi, ce travail du chant à pouvoir tenir à quatre, qui est très particulier. Et à partir de là, il y a eu un travail d'histoire quelque part, comme quand on commence une trilogie, il fallait la faire. Ça nous a aussi apporté à chaque fois des clés sur un quatuor qu'on a pu le jouer auparavant. Donc quand on a commencé aussi le troisième, on a pu avoir des clés sur les autres. Enfin, il y a une complémentarité des quatuors qui est tout le temps présente entre ces quatuors là.
Et ce sont des quatuors qui, à l'époque de leur création, ont perturbé le public. Ce sont des œuvres complexes, d'une grande modernité. Quelles sont les singularités de ces quatuors?
Selon nous, moi, Beethoven est un compositeur de rupture. Il l'a dit lui-même, cette musique n'est pas pour vous, mais pour les générations futures. Et les musiciens, quand ils ont eu cette partition, eux-mêmes ont traduit de leur étonnement et de leur mécontentement, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Techniquement, Beethoven repousse les limites du quatuor, il donne à chaque voix une importance et un aspect technique à surmonter. Et puis ces ruptures, ces silences très forts, Beethoven c'est aussi la musique des silences, des longs silences qu'il faut faire résonner, qu'il faut interpréter. Et dans tous ces aspects-là, il y a pour moi avant tout ces ruptures émotionnelles. c'est comme un acteur, un personnage qui, en quelques instants, est capable de passer d'une émotion à une autre.
Des contrastes, des ruptures émotionnelles, c'est vrai qu'il y a des mouvements d'une grande force, et puis des mouvements, on l'évoquait, on va l'écouter, l'adagio du deuxième quatuor, particulièrement contemplatif. Comment fait-on pour se mettre dans l'état d'esprit approprié quand on joue, par exemple, cet adagio? Il faut trouver une forme d'intériorité, de sérénité, parce qu'il y a de la sérénité et de la douleur en même temps sous-jacente.
Oui, oui.
Il y a les deux. Hein. On est bien et on est mal en même temps.
Oui, oui.
David.
Ce qui est particulier, il y a évidemment une étude extrême, du texte, de ce qu'il a voulu dire. Dans ce mouvement-là, il y a aussi un hommage à Bach avec tout simplement un BACH qui arrive au milieu de l'œuvre et qui n'est pas anodin dans cette écriture-là. Beaucoup de canons, beaucoup de d'éléments fugués. Et c'est vrai que bon, tout ça, c'est des éléments d'écriture, mais qui ensuite nous poussent à lâcher prise. Parce que c'est vrai qu'il y a ce texte, mais quand on veut avoir cette spatialité, cette temporalité, eh bien, il faut qu'on puisse avoir tout ça ancré en nous. Et dans le quatuor, c'est encore plus sensible parce qu'il y a le temps et quelque part entre nous, on décide tout et c'est encore plus relatif, je dirais, que dans d'autres formations.
Le deuxième mouvement du quatuor, opus 59, numéro 2, Razoumovsky, l'un des Razoumovsky de Beethoven, par le quatuor Elmire, avec entre autres les violonistes David Petrick et Johann Braca, qui sont avec nous ce soir sur Radio Classique. On va citer également vos partenaires, Hortense Fourier à l'alto et Rémi Carlon au violoncelle. C'est votre premier enregistrement pour le label Scala Musique. C'est un enregistrement important, ce sont des grands chefs-d'œuvre du répertoire, qui marque une étape importante justement de la vie du Quatuor Elmire. Quatuor Elmire qui a quoi, 8 ans d'existence?
Oui.
C'est ça?
C'est exactement Johan. Ça, oui. Le Quatuor, comme on le disait, c'est une vie, c'est des rencontres avant tout humaines. Donc le Quatuor a eu son histoire et puis on s'est retrouvé voilà avec Rémi, Hortense et David. Et c'est une étape importante parce que, à notre sens et à mon sens, se retrouver devant les micros, être face à un miroir, être face à soi-même, ça marque un moment où nos choix d'interprétation, nos choix en tant que quatuor, sont directement gravés et puis montrés au public et à nous-mêmes. Et ça, c'est une étape, je pense, où les choix qu'on fait en tant qu'identité de quatuor, Quatuor Elmire, on a envie vraiment de se reconnaître, d'être fier, bien sûr, parce que c'est beaucoup de travail. Alors, vous savez, les premières notes qu'on a fait devant les micros, maintenant, remontent à 1 an et demi, c'est ça? Et je crois qu'assez vite, au bout de 3-4 mois, on se disait, bah, on le ferait vraiment plus pareil, ça. Mais ça, tu te rends compte ce qu'on faisait à ce moment-là?
Mais ça, c'est normal, hein.
Oui.
Voilà, c'est ça. Parce que la musique, elle est vivante. On va graver une œuvre et puis 15 jours après, la jouer en concert de façon différente. Oui. Mais c'est la magie de la musique, du spectacle vivant.
Et quand on parlait de moments importants, c'est que malgré tout, quand on le réécoute aujourd'hui, on sait que à ce moment-là de nos vies, on était vraiment nous-mêmes, honnêtes avec ce qu'on a enregistré devant les micros. Et je crois que c'est ça qui est important. En tout cas, pour nous, en tant que premier album, de pouvoir, à un moment donné, se dire, voilà, notre histoire, notre quatuor, notre son, notre interprétation aujourd'hui.
Et ces quatuors de Beethoven, vous allez les rejouer prochainement. Alors, votre prochain concert, dans quelques jours, ce sera le 1er février, la Folle Journée de Nantes. Vous y jouerez Beethoven ou un autre répertoire?
Alors, pour cette Folle Journée, ce sera un autre répertoire, parce qu'on l'a joué donc l'année dernière, donc à Nantes et à Varsovie. Cette année, ce sera Haydn et Bartok et Ravel, et plus tard dans la saison nous rejouerons Beethoven, qui sera vraiment très très présent évidemment, notamment à l'étranger, à Hong Kong au French May, mais aussi au festival de la Fondation Saint-Germain Polignac, donc le 6 juin prochain, avec le Quatuor Eben, où nous jouerons donc en première partie le Razumovsky numéro 3 et ensuite l'octuor de Mendelssohn. Donc il y aura tout au long de l'année des dates avec ces Razumovsky qui viendront évidemment jalonner cette saison et cette sortie de disque.
Et quels sont les autres compositeurs, les autres œuvres qui vous accompagneront tout au long de cette année 2026, Johan?
Eh bien, on se lance à la découverte, enfin la découverte, on les connaît depuis longtemps, mais en tout cas, le quatuor ensemble, à l'assaut du répertoire français. On va jouer quatuor de Ravel, quatuor de Debussy, quatuor de Dutilleux. Et on est très content et on pense que justement, après avoir arpenté cet opus de Beethoven, de pouvoir nourrir de nouvelles sonorités, à la fois dans l'époque et dans la géolocalité, de compositions très différentes. Et voilà, en tout cas, ça va faire partie. Bartok aussi, qui nous accompagne toujours. Que serait un mois sans un petit peu de Bartok?
Voilà, donc je rappelle les rendez-vous 1er février à la Folle Journée de Nantes. Au mois de mai, une tournée en Asie. Hein. 6 juin à la Fondation Saint-Germain Polignac. Et puis également cet été au Festival de Montpellier, une tournée en Allemagne et puis d'autres dates, j'imagine, qui vont se rajouter qu'on pourra consulter sur votre site internet quand vous aurez
Absolument.
Bien rempli les dates de concerts et des
Absolument.
Agendas.
Absolument.
Merci beaucoup David Petrick et Johan Braquin. On va se quitter avec le final du troisième quatuor, un final fugué, un final déchaîné. Quel mot pour décrire cette musique?
C'est la vitalité pour moi et l'envie de vivre, et c'est ça.
Ouais.
Ça y est, il a surmonté ce testament, il a surmonté ses périodes de doute et quelque part, il en ressort avec un nouveau souffle.
La force beethovenienne. Merci beaucoup.
Thank you.
Le final du troisième quatuor de l'opus 59 de Beethoven par le quatuor Elmir. Un nouvel extrait de ce double album Beyond the Limits qui vient de paraître sous le label Scala Music. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Pierre Dumousseau. Très belle suite de soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
20h30, minuit, votre soirée classique sur Radio Classique.
Radio Classique. La musique avant tout.
Thank you.
Écoutez Radio Classique.